au niveau des réactions. Donc là, c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Voilà, ça a été le début d'un long chemin sur lequel je suis toujours. Et je me suis passionné pour toutes ces techniques de méditation, d'hypnose, de sophrologie, d'état de conscience modifié. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'on nous ait pas appris ça plus tôt, qu'on nous ait pas appris ça à l'école. Je pense que ça aiderait tellement d'enfants, d'ados, d'adultes même. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on soit pas plus au courant. Et en creusant en regardant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait déjà plein d'études scientifiques qui montraient les bienfaits de ces pratiques-là. Et je me suis dit, mais en plus, c'est prouvé scientifiquement. J'étais encore une fois étonné qu'on soit pas plus au courant, qu'on soit pas plus éduqué à toutes ces techniques qui font, qui moi en tout cas m'ont fait énormément de bien, et je dis toujours que la méditation m'a sauvé la vie. J'ai continué à creuser, et puis voilà, comme étant passionné par ça, par la psychologie déjà, par la philosophie, j'ai vraiment creusé, je me suis intéressé à toutes les techniques, que ce soit dans le bouddhisme, dans d'autres religions, dans d'autres philosophies, dans d'autres cultures. Et j'ai fait une sorte de tour du monde finalement de toutes ces pratiques qui vont parfois même au-delà de la simple méditation statique, puisque pour moi, la méditation, et comment je la définis, pour moi, c'est vraiment un entraînement mental, une gymnastique mentale qui permet de se libérer de certaines peurs, de certains conditionnements qui nous empêchent d'être bien avec nous, d'être bien avec les autres, d'être bien avec le monde. Et donc j'ai testé plein de types de méditation, que ce soit le village des pruniers dont on parlait tout à l'heure par exemple, de Thich Nhat Hanh, qui est un centre de retraite dans le sud-ouest que je trouve extraordinaire. Thich Nhat Hanh qui est pour moi celui qui a démocratisé la pleine conscience en Occident. Une forme de bouddhisme zen qu'il a développé et qui a été d'ailleurs reprise par Jon Kabat-Zinn, ce médecin américain qui a par la suite laïcisé cette pratique, qui s'est fortement inspiré finalement de Thich Nhat Hanh, qui avait cette intuition que ça pouvait guérir et que ça pouvait être utile dans le monde de la santé. Et ce médecin américain aujourd'hui a créé un programme qui s'appelle le MBSR, sur lequel sont établies la plupart des études scientifiques, qui est un protocole qui dure 8 semaines, qui est vraiment, vraiment spécialisé sur la pleine conscience, que j'ai suivi également, qui a été une expérience très enrichissante. C'était mes premières expériences de méditation en groupe. À ce moment-là, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Et c'est vrai que je trouve que la méditation en groupe et en vrai, dans le réel, et pour moi, c'est toujours mieux que de méditer avec une appli ou un support digital. Parce que je sais pas comment l'expliquer exactement, mais je trouve que quand on a d'autres êtres humains dans la même salle que soi, c'est un peu comme aussi faire du sport, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très psychologique qui nous aide vraiment à méditer et à avoir une expérience plus enrichissante. Donc voilà, j'ai fait un peu ce tour du monde de la méditation. Et bon, bah, alors là, je suis rentré dans l'univers de. Alors moi, que suis issu d'une famille extrêmement catholique. Voilà, j'avais quand même envie de j'ai un petit peu, moi, rejeté tout le storytelling en fait religieux. Et là, je me suis retrouvé dans un monde avec plein plein d'univers religieux, ésotériques, qui sont pour moi des storytelling, et qui peuvent, voilà, et comme la religion catholique, sont des storytelling très intéressants, qui ont pour but, qui ont un but pédagogique. Mais moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était de déconstruire les storytelling, les dogmes, pour juste voir en fait ce qu'il y a de commun et d'intéressant et de simple et utile en fait de toutes ces pratiques-là, et de les rassembler et puis de faire un travail de reconstruction de quelque chose de très pédagogique, de simple et qui soit adapté à notre société, à notre culture occidentale, française notamment. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une application mobile avec des audios guidés, avec des séances. Et effectivement, j'avais découvert une appli américaine qui s'appelle Headspace, une appli intéressante qui reste pour moi une des meilleures applis anglaises parce que c'est un ancien moine en fait bouddhiste qui est revenu, on va dire, à une forme plus laïque et qui a créé plein plein de séances qui sont très intéressantes, issues du bouddhisme tibétain, il me semble. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette appli mobile. Moi qui voulais faire quelque chose et entreprendre dans un secteur qui fasse du sens, ben là c'était pour moi, la chose qui faisait le plus de sens pour moi, je voyais à quel point ça m'avait aidé moi. Je me suis dit que ça pouvait aider tout le monde. Et je pense, j'ai toujours eu cette certitude que la méditation pouvait être utile dans tous les domaines de la société, que ce soit l'éducation, que ce soit le monde de la santé, le monde des entreprises, dans les prisons. Et j'en parlais d'ailleurs avec Gaël Le Bouec, je crois qu'il est un député d'Ille-et-Vilaine, donc un petit peu du coin de Rennes. Et on partage tous les deux, on discute un petit peu, parce qu'il utilise aussi l'appli Namatata. On est tous les deux persuadés qu'en France, ce serait super de développer cette pratique de la méditation dans tous les domaines de la société. Et là, il y a une première initiative là qui va être lancée en Ille-et-Vilaine de méditation dans les écoles. Donc, c'est une super chose. Et d'ailleurs, je lui ai proposé mon aide s'il en avait besoin. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer une application mobile. Donc il y a 4 ans, et aujourd'hui c'est une application mobile qui a plus de 1 million de téléchargements. Donc il y a environ 1 million de personnes qui ont au moins essayé la méditation. Donc c'est vraiment, enfin je suis super content et super fier d'en être arrivé là. Donc l'application en fait c'est voilà, il y a plusieurs, comme plein d'applications, il y a des programmes thématiques avec voilà des programmes par exemple sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, sur comment développer des émotions positives, sur l'estime de soi, sur la gratitude, la bienveillance, créativité, Et puis, il y a aussi quelques programmes, en fait, qui sont des programmes invités dans lesquels je donne carte blanche, en fait, à des personnalités du monde de la méditation. Il y a pas mal de personnes, d'ailleurs, d'enseignants de méditation qui viennent du village des Pruniers, qui ont fait des programmes sur la confiance, l'autocompassion, voilà, des sujets un peu comme ça. Et puis également, j'ai créé des séances en fait sur les différentes activités. Donc sur voilà, quand je me lève, quand je marche, quand je cours. Je trouve que tous les moments sont propices à la méditation finalement. Les transports en commun, par exemple, aussi. Et puis il y a aussi des méditations sur pour les enfants, des méditations pour s'endormir. Donc voilà, il y a plein de programmes, de thématiques différents. Effectivement, ce qui me différencie un peu des autres applis, c'est ce côté avec une pédagogie assez centralisée. Donc pas forcément un bric-à-brac, je dis ça, mais c'est pas péjoratif, d'enseignants et de programmes différents. J'essaie de voilà d'avoir une certaine cohérence entre les programmes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette appli? Et en fait, par rapport au digital, et je pense que peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a pas mal de critiques qui peuvent être faites sur les applications mobiles. J'entends que la méditation, ça ne devrait pas être sur un support digital. Et en fait, je pense que le digital, en fait, et les applications mobiles sont très utiles pour débuter, pour s'y mettre. Je pense que moi, je m'y serais jamais mis sans. J'aurais jamais eu la chance, justement, d'être sauvé par la méditation si j'avais pas commencé à trouver des choses sur Internet, sur le digital, à écouter des méditations guidées. Et ce qui est bien, après, en plus, on n'a pas besoin de regarder l'écran pour méditer, c'est juste de l'audio finalement, un peu comme si on étudie, si on écoutait la radio. Donc, je pense que c'est plutôt une utilisation très positive des nouvelles technologies pour lesquelles j'ai aussi pas mal de craintes, parce que avec les réseaux sociaux, etc., je trouve qu'on est de plus en plus dépendant. Avec les notifications, ils font tout pour qu'on reste le plus longtemps sur leur plateforme, mais du coup, je trouve qu'il y a une certaine forme de manipulation qui n'est pas forcément positive pour nous, malheureusement. Mais je trouve que de transmettre en tout cas des méditations, des méditations qui font du bien, l'objectif est de faire du bien. C'est plutôt un aspect, le bon aspect voilà, des nouvelles technologies. Et je pense aussi que l'appli mobile ne fait pas tout. C'est-à-dire que c'est très bien de méditer sur une appli mobile. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui s'arrêteront là, qui n'auront pas forcément envie d'aller plus loin, parce que ça leur suffit, parce que ça répond à leurs besoins et qu'ils n'ont pas forcément besoin de plus. Mais il y a aussi d'autres personnes et je reçois plein de témoignages d'utilisateurs de Namatata qui me disent que ils ont été super contents de découvrir la méditation par Namatata, mais ils ont envie d'aller plus loin. Et du coup, après, ils vont se tourner vers des centres, des retraites bouddhistes ou pas bouddhistes. Et je trouve que c'est une super chose. Et j'ai le projet actuellement, je suis en train de développer un nouveau projet. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais voilà, je vais faire un crowdfunding en fait pour créer un. J'ai envie d'aller plus loin que le côté juste digital. J'ai envie de créer un réseau de personnes conscientes, de personnes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent prendre soin des autres et du monde. et de créer un vrai réseau, des expériences et des, voilà, pourquoi pas des retraites, pourquoi pas un centre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je me suis rendu compte aussi que c'est ce qui m'enrichissait le plus, les expériences réelles. Donc j'ai envie de ça à la fois pour moi et puis aussi pour les personnes qui découvrent la méditation sur Namatapa. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu
Oui, c'est pas
de
mal déjà.
l'application. Ouais.
Merci beaucoup pour ton témoignage. De toute façon, tu vas reprendre la parole, mais voilà, maintenant on va fonctionner en table ronde, c'est-à-dire on va Alain, si tu peux nous remettre Rodolphe, moi et puis Hervé sur le même écran. Oui, Hervé, vas-y, rallume ton micro aussi. Voilà.
Bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre témoignage. Moi, je suis assez touché parce que, bon, hier soir, je suis allé sur votre site et, bon, sur la première page du site, j'ai vu qu'on me proposait une offre promotionnelle et je suis allé un peu plus loin et, bon, j'ai été un peu dubitatif un peu à la lecture du contenu de votre site parce que bah, ça correspondait à ce que pour moi, enfin, ce que j'essaye d'expliquer ou de présenter aux pratiquants, à ce que ce n'est pas la méditation. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que, bon, à la lecture de ce contenu, qu'il y a une utilisation ou, je dirais, d'une certaine manière, un détournement de la méditation à des fins de développement personnel et de bien-être. Bon, après, ce n'est pas un jugement que je porte, hein, je me dis certainement que c'est utile à bon nombre de personnes qui vont sur votre site. Parce qu'après tout, si le fait d'aller sur votre site, ça leur permet d'aller mieux, c'est déjà une première marche vers un bien-être et peut-être pour aller un peu plus loin et découvrir ce que c'est que la véritable méditation. Parce que pour moi, la véritable méditation, c'est quand même nous permettre d'accéder à une dimension spirituelle. C'est-à-dire, c'est aussi une pratique qui nous met en chemin. Et en fait, moi, j'ai envie de vous poser la question, bah, de quelle approche vous vous sentez le plus, bah, vous avez une certaine proximité.
Je me sens proche de toutes les, enfin, toutes les approches parce que j'ai l'impression que toutes les approches mènent justement à ce chemin, de. Alors après, qu'est-ce que la spiritualité? Pour moi, et la spiritualité, c'est tout simplement c'est un chemin qui commence par déjà être bien avec soi, pour être bien avec les autres et être bien avec ce qui nous entoure. Donc avec l'environnement, avec la nature, avec le monde. Donc en fait, je me sens assez proche finalement d'une vision comme celle de Spinoza. Si, pour lui, s'il y avait un Dieu, ce serait la nature. Ou d'une vision finalement. Je partage beaucoup la vision de Frédéric Lenoir, finalement. Pour moi, s'il y a quelque chose de sacré, c'est la nature. Donc, c'est quelque chose de transcendant, finalement, puisque la nature est au-dessus de l'homme. donc c'est la nature et puis tout ce qui la compose, donc c'est tous les êtres, tous les animaux et tous les éléments qui la composent. Donc j'ai pas l'impression de détourner quoi que ce soit, et je pense pas que ça puisse être détourné, la méditation, puisque pour moi c'est un entraînement mental, ça n'appartient à personne, à aucun dogme, à aucune religion. Je pense que c'est quelque chose qui est utilisé par les hommes depuis des milliers d'années. On met un nom dessus, mais finalement c'est quelque chose de profondément humain et simple. Non, et je me sens très proche de. J'ai beaucoup aussi de je pense que le bouddhisme a apporté énormément en codifiant la méditation depuis plusieurs millénaires. Et donc, c'est une source d'inspiration qui a été très forte pour moi. Voilà.
Alors, vous avez dit, j'ai fait le tour du monde, je pense que peut-être au sens figuré ou au sens propre du terme, je ne sais pas, mais les deux, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, moi, c'est un peu une des limites que j'y vois à cette prolifération d'applications numériques, cette fameuse caverne d'Ali Baba à laquelle faisait référence Yann tout à l'heure, et qui me rappelle aussi l'expression de Chogyam Trungpa, qui est un grand maître tibétain, et qui parlait de matérialisme spirituel. Alors qu'aujourd'hui, et ça c'est ce qu'on voit aussi dans nos lieux de pratique, c'est que c'est l'instabilité des pratiquants. C'est-à-dire que finalement, les personnes qui viennent pratiquer, ils pratiquent au bout de 2 mois, 3 mois, et puis ils vont ailleurs. Et puis ensuite, ils vont ailleurs. En clair, ils papillonnent, font du butinage spirituel. Et je me dis que c'est un peu je me dis que toute la prolifération de ces applications numériques, pour moi, ça favorise cette instabilité-là. Et ça évite parfois à certaines personnes de s'engager véritablement dans une voie spirituelle. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus.
Moi, j'ai encore cette idée que les deux sont complémentaires et que finalement, toutes ces applications numériques permettent à plein de personnes qui n'auraient jamais eu accès à ce chemin qui est quand même qui est quand même pour moi assez difficile d'accès dans une société laïque comme la nôtre, où il y a plein de peurs en fait liées aux religions, à la spiritualité, et je pense qu'il y a plein de personnes en fait qui vont mettre un pied dans ce chemin et commencer un chemin. Et après, qui seront libres de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et je pense que les deux, en fait, sont tout à fait complémentaires. Plutôt, je les opposerais absolument pas, en fait. Je pense qu'elles sont totalement complémentaires.
Vous voulez intervenir, Rodolphe ?
Hervé, à l'instant. Chogyam Trungpa, il disait aussi, la méditation commence quand on s'ennuie. Et aussi, je dirais à Antoine que je suis... en grande partie d'accord avec tout ce qu'il nous a proposé. J'ai bien entendu l'exposé de Yann, j'ai bien entendu les propositions d'Antoine. Mais alors, qu'est-ce que je suis content de ne pas être né avec un téléphone portable greffé dans la main et de ne pas avoir eu accès à Internet, parce que j'ai l'impression que j'aurais jamais pu accéder aux enseignements et aux expériences que j'ai faites pendant mes 45 années de méditation. Vraiment, je suis très content d'être vieux. Et pour dire aussi que moi aussi, je me sens spinoziste. La notion de natura naturans de Spinoza me convient parfaitement. Mais aussi encore celle de Bergson, l'évolution créatrice. Je n'ai nul besoin d'un dieu créateur, je ne me sens pas non plus créature. au-delà de ces remarques préliminaires, je voudrais dire que pour moi, il y a trois possibilités d'accès à la méditation. Bon, la plus courante, j'admire profondément la vulgarisation, la diffusion extraordinaire de ces millions de méditants, alors qu'il y a encore 20 ans, on était vraiment ostracisés. Hein. J'ai un souvenir d'avoir été, parce que je proposais de la méditation dans mes formations de professeur de yoga, on m'a fermé l'accès à la reconnaissance de mon école comme formation professionnelle. Voyons, on a en 20 ans, 25 ans, on a fait beaucoup de chemin. Hein. Notamment, c'était un fonctionnaire de Rennes qui m'avait supprimé cette reconnaissance de formation professionnelle parce que je pratiquais la méditation et que je l'enseignais. Donc, vous voyez, le chemin, ça, c'est vraiment très positif.
Ah bah oui.
Il y a aussi une autre entrée à la méditation, autre que les applications, c'est Vipassana, c'est entrer dans le dur, 10 heures, 10 jours de méditation, et puis après, on ramasse les morts, on voit ce qui reste. Alors, c'est très intéressant, sauf que, éventuellement, on peut confondre l'expérience violente, très forte, qui remue profondément l'être, avec la méditation. Et moi, ma troisième entrée, ça a été une méditation quotidienne. Je me suis astreint pendant des années et des années à méditer tous les jours, au moins pendant une heure, et à faire la même méditation. Tu entends, Antoine ? À faire la même méditation. Et c'est ça qui m'a permis d'accéder à certains niveaux de conscience et à intégrer véritablement la méditation dans des hauts niveaux de conscience yogique. Et si bien qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de méditer, ou alors je peux arrêter un mois, deux mois, je me rassois et les mêmes fonctions énergétiques reprennent dès lors que je m'assois en lotus. Et ça recommence, tu vois. Et je crois que, pour finir, je vais illustrer aussi avec une petite fable indienne que nous racontait souvent notre maître. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas d'eau dans son champ, qui n'a pas d'eau dans sa propriété, et qui n'a pas de source non plus, et donc qui se met à creuser un puits. Et puis, à chaque fois qu'il descend 2, 3, 4, 5 mètres, il n'y a toujours pas d'eau. Et alors, pendant toute sa vie, il va creuser de nouveaux trous, mais il ne va jamais trouver d'eau.
Oui, oui. Donc, creusons un seul puits longtemps au même endroit.
C'est possible, c'est plus sûr.
Oui. Ceci dit, il faut peut-être faire quelques prélèvements au départ, avant de décider où on va creuser profond.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment être certain que l'enjeu et les efforts en valent la peine.
Voilà. Donc, en ce sens-là, c'est tout à fait justifié de commencer par papillonner, comme disait Hervé.
Non, je crois que d'avoir un enseignement, enviable, avoir une capacité d'identification avec l'enseignement, avec l'enseignement et avec les résultats.
Mis à part les cas exceptionnels où tu rencontres l'enseignement qui te convient très tôt et où tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, il y a bien, pour la plupart d'entre nous, une phase de recherche et d'expérimentation. Et en ce sens-là, ça, de mon point de vue, ce n'est pas papillonner.
Mais moi, j'avais une trouille bleue de la méditation, mais vraiment, je me suis essayé. Ma première approche, ça a été le zen. Ma seconde approche, ça a été le bouddhisme, le lamaïsme tibétain. Et ma troisième approche, ça a été le yoga, la méditation yogique. Il m'a fallu quelques années, effectivement, pour entrer de plein pied dans cette voie-là.
Voilà, donc tu as bien creusé quelques trous avant de te mettre à creuser le bon.
Je suis pas sûr d'ailleurs que je creusais vraiment, hein.
Ouais, enfin, tu essayais, comme chacun d'entre nous. Ça, c'est cette phase-là de recherche, c'est très différent de ce que tu disais, Hervé, et avec lequel je suis d'accord avec toi. Il y a une phase légitime de recherche, et après, il y a une phase très portée par la société et l'ambiance actuelle de papillonner, de se distraire, d'enrichir, d'accumuler les expériences superficiellement au lieu d'en approfondir une sérieusement. Je suis d'accord.
Tout à fait. Tout à fait.
Vas-y, Hervé.
Non, tout à fait. Je suis d'accord. Je fais bien la différence entre le butinage spirituel et la recherche. Ceci étant, je pense que c'est beaucoup plus facile de cliquer, de parcourir le net pour trouver des applications que de pousser la porte d'un dojo et de faire la rencontre avec un enseignant, de pratiquer avec les autres en groupe. Parce que il y a, à mon avis, il y a deux notions qui sont très importantes. Au bout d'un moment, quand on chemine dans la pratique de la méditation, il y a la notion d'engagement. Il y a aussi la question de la transmission. Parce que moi, finalement, enfin moi et d'autres, voilà, je pense que c'est aussi le cas pour Rodolphe, Yann et puis beaucoup d'autres ici. Ben, je pense notamment à Marie. Il y a aussi la question de la transmission. Et je voulais savoir quand même comment va s'opérer cette transmission-là à travers ces objets numériques. C'est-à-dire que est-ce que ces objets numériques, à un moment donné, ne vont pas venir se substituer à ces lieux de pratique que sont le dojo, que sont les temples. Et dans ce sens-là, moi, j'interpelle quand même les promoteurs de ces objets sur le contenu. Est-ce que le contenu permet ou incite les gens à sortir du virtuel et à se confronter à la réalité de la rencontre avec un maître? Dieu sait que c'est parfois difficile. Moi, je me souviens, je pratiquais au dojo Zen de Rennes. Au bout de la quatrième fois, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. On m'a dit de retourner à la maison. On m'a dit, si c'est comme ça, tu retournes à la maison. Voilà. Bon, j'ai à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, j'arrête, quoi. Si j'avais eu un ordinateur, si j'avais eu une application, peut-être que j'aurais cliqué. Voilà. Donc, il y a quand même cette notion-là qui me paraît importante. Et je ne sais pas si, les applications numériques, favorisent ou en tout cas, mettent en place des conditions pour qu'il puisse y avoir ce type de rencontre.
Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a pour certains ou certaines, ça va servir d'excuse, comme tu le dis très bien, et ça va leur permettre d'éviter de s'engager sérieusement. Mais pour d'autres personnes, c'est, comme l'a dit Antoine, une excellente marche, une excellente entrée en matière. Et ce qui fera la différence au bout du compte, c'est la qualité et la profondeur de la demande. Si quelqu'un a une demande vraiment profonde, de lui-même, il se rendra compte des limites des applications. Comme Antoine l'a très bien dit, c'est évident que c'est beaucoup mieux de méditer avec des êtres humains et que c'est aussi plus compliqué d'avoir des relations avec des êtres humains, y compris un guide et une sangha de chair et d'os, qu'avec des amis Facebook ou des amis Inside Timer. On est bien d'accord. Et derrière tout... Enfin, moi, mon impression, et je rejoins Antoine là-dessus, c'est que en fait, ça permet de mettre sur la première marche de la recherche beaucoup plus de monde. Et donc, si mathématiquement, tu as beaucoup plus de gens qui montent sur la première marche, statistiquement, tu en auras plus à monter la deuxième. Et donc, moi, je suis pas du tout, je pense pas du tout que ça va vider les temples, les dojos ou les centres. Je pense plutôt que ça va les remplir. Mais il faut que les gens se rendent compte par eux-mêmes que ça leur a apporté quelque chose, mais qu'il manque. Voilà. Et voilà, sur 10 personnes qui rentrent en méditation par une application, il y en aura un qui. Enfin, je dis ça comme ça, je ne connais pas les proportions, mais il y aura forcément une personne de plus à pousser la porte d'un dojo, d'un temple ou d'un ashram. Oui. C'est mon idée. Mais...
C'est tout à fait possible. Mais il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'on est en train de changer complètement de perspective historique. Au travers de la méditation, pendant plusieurs millénaires,
de
monétiser la méditation, de la faire payer. Je veux dire, ça n'est pas un objet de consommation. Ça l'est devenu, mais ça n'était pas un objet de consommation pendant quelques millénaires. Alors là, on est dans une autre planète.
Ben oui et non, parce que ce qui est monétisé, c'est la phase d'apprentissage. Mais voilà, dans une société traditionnelle, tu ne payes pas forcément ton maître, mais tu te mets à son service. Voilà. Donc, il y a forcément une phase, il y a un échange, forcément, y compris monétaire, entre un enseignant et ses élèves. Et puis, il y a un moment où l'élève devient autonome.
Non, même pas forcément. Hein. Moi, je n'ai pas... Ben, j'ai jamais connu d'échange monétisé de la méditation.
Enfin... Et c'est comme pour le yoga, voilà, t'apprends auprès de quelqu'un qui s'est formé et qui
voilà. Et puis une question
si c'est pas
et puis on est aussi dans un monde où voilà, et on est sur un support digital, il y a plein de coûts. Moi, par exemple, je rêverais évidemment d'un monde où tout serait, où il n'y aurait pas d'argent, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin d'être payé pour se nourrir, pour payer les gens qui travaillent sur le projet, etc.
On est bien d'accord, mais jusqu'à présent, la méditation, c'était gratuit.
Mais je comprends pas. Enfin, alors. Quand tu dis gratuit, tu parles de la pratique du don.
Parce que
dans les lieux de pratique, dans tous les lieux de pratique, il n'y a pas de. La pratique n'est pas forcément tarifée, mais les pratiquants sont invités à faire un don. Ça, c'est une pratique qui existe. Qui a cours en Orient, enfin c'est vrai dans les pays d'Asie, quand on médite, c'est une aberration que de demander aux gens de payer leur méditation. Par contre, ils font un don. Sauf que nous, on est en Occident et la pratique du don, c'est pas dans notre culture. Moi je vois l'exemple qu'on a au centre culturel, par exemple. On a à un moment donné voulu certaines pratiques de méditation sont gratuites et on invite les pratiquants à faire un don parce que malgré tout, c'est ce que ça rejoint ce que disait tout à l'heure Antoine, ça a un coût. Enfin, je veux dire, il faut bien payer le loyer, il faut bien payer le déplacement de l'enseignant, etc., etc. Donc on s'aperçoit que quand on fait la pratique du don, on s'y retrouve pas, quoi. Je veux dire, la structure n'est pas viable. Donc, à un moment donné, d'où le fait, peut-être, au bout d'un moment, de tarifer, entre guillemets, la pratique.
Donc, la meilleure manière, en fait, ce serait de devenir autonome. Hein,
de quoi?
De devenir autonome dans sa méditation, comme ça, on n'a plus besoin de payer qui que ce soit.
C'est le but, de toute façon.
Oui. Mais. On ne peut pas être autonome comme ça du jour au lendemain.
Le plus rapidement possible quand même.
Ça dépend de chacun.
Ouais.
Il y en a qui ont besoin plus longtemps d'aide. Et puis, il y a cette dimension de pratique en commun qui est très importante.
Pratique, la transmission physique et aussi la présence des méditants, ça, c'est quelque chose qu'Internet ne nous permettra jamais.
Non, c'est bien certain.
On est bien d'accord qu'il y a des limites.
C'est bien certain, il y a des limites, mais il y a aussi des avantages, comme aujourd'hui, on peut se retrouver avec tous ces participants pour la méditation et puis pour discuter.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais le bémol aussi, c'est que les connexions Internet et surtout les mémoires Internet, ça fait maintenant plus de 4% de la consommation d'énergie dans le monde. Ça va
augmenter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi peut-être, mais là, c'est plus un regard en général sur le numérique et la digitalisation, c'est qu'on est de plus en plus dépendant d'opérateurs, de fournisseurs. À la fois, ça nous rend, il y a cette espèce de paradoxe que ça nous rend autonome, mais en même temps, on est bigrement dépendant, en fait, quoi. hein, du fournisseur, des GAFA, des, etc., etc. On est pieds et mains liés finalement d'une certaine manière à tous ces opérateurs qui font que finalement on peut communiquer par écran interposé.
Voilà, mais on ne va quand même pas cracher trop dans la soupe, puisque en effet, ah c'est grâce à ça qu'on a
Bien
l'événement
sûr.
Virtuel. On n'a pas pu faire les
Absolument.
Mais c'est vrai que c'est. Je suis d'accord avec Rodolphe, c'est
à
quand
quel
même
prix
une question de fond, puisque voilà, c'est pas sûr que l'Internet à haut débit et à très haut débit soit quelque chose de soutenable.
Voilà,
on va peut-être se rendre compte dans 5 ans ou dans 10 ans que ça participe trop à la dégradation
d'accord, on est dans une période très particulière avec l'épidémie de Covid qui a multiplié les connexions. On fait des cours en Zoom, enfin pas moi, mais je comprends très bien qu'il faille le faire. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à sortir de ce système-là? On en est tellement dépendant, est-ce qu'on va réussir à sortir?
Absolument. Ouais. On n'en sortira pas.
Personne ne sait, on verra bien.
Bah, ça ne peut être qu'une décision individuelle et volontaire. Je ne pense pas que ça puisse être une décision collective. Hein. Ça me paraît peu probable.
Moi, je suis un petit peu plus optimiste. Je dirais que comme dans toute l'histoire de l'humanité, on passe toujours par des phases extrêmes et qu'on arrive toujours à un équilibre. Et je pense que c'est aussi ça, la méditation, c'est arriver à un équilibre personnel, intérieur. Aujourd'hui, effectivement, il y a des excès dans le numérique. Et je pense que j'espère que l'être humain saura, parce qu'aujourd'hui, on a très, très peu de recul, hein, c'est quelque chose de très récent. Et je pense qu'à long terme, l'être humain saura trouver un équilibre pour faire en sorte que ça ne lui nuise pas et que ça lui fasse du bien plutôt que du mal. Donc, j'espère qu'on arrivera à une société où on aura moins d'écrans et une société où on sera moins captif des écrans.
Bon. On peut peut-être passer la parole aux conversations de groupe Zoom.
Oui, tout à fait. Surtout que je vois là qu'il y a une question qui revient, qu'on n'avait pas prévue. C'est voilà, comment se fait-il qu'il n'y a que 4 hommes qui parlent et qu'il n'y a pas de femmes dans ce groupe? Alors, on va donner la parole aux femmes et elles vont pouvoir poser des questions ou intervenir. Voilà, donc qui veut prendre la parole? Donc, vous activez votre caméra et votre micro, mais une seule à la fois, s'il vous plaît.
Bonsoir, c'est Sylvaine.
Oui, bonsoir Sylvaine.
J'ai une question précise sur l'application Namatata. Je reviens au terre à terre. Sur l'application, il y a une application de méditation guidée Namatata il y a 4 ans. Je l'ai écoutée là, tout à l'heure et à la fin, c'est marqué qu'à chaque abonnement ou inscription, vous offrez à quelqu'un qui n'a pas l'argent, une inscription aussi, un abonnement gratuit. Comment vous faites le choix et comment c'est possible?
Alors, oui, alors ça, c'était au début, j'avais mis en place, je pense que vous êtes tombé sur une vidéo, une ancienne vidéo.
Il y a 4 ans, oui, tout à fait.
Ouais. Et l'idée, c'était de transmettre des abonnements aux personnes qui en ont besoin. Donc,
Et vous avez réussi à le faire et comment?
J'ai fait quelques opérations, par exemple avec les petits frères, je crois que c'est les petits frères des pauvres, où j'ai mis à disposition un certain nombre d'abonnements. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Je fais plein d'opérations en fait où je donne des abonnements pendant les, même s'il n'y a plus cette vidéo, hein, mais donne des abonnements, en tout cas dès qu'il y a des gens qui me le demandent et qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, en fait je leur offre tout simplement un abonnement.
Ah d'accord, c'est parce que moi j'ai mis Namatata et c'est la première qui est tombée, donc c'est pour ça, donc
ouais.
C'est peut-être celle c'est qui a été téléchargée le
sur
plus
sur YouTube, en fait. Ouais, c'est une vieille vidéo. Ouais.
Ouais. Ok, merci beaucoup.
Alors, une autre femme, s'il vous plaît.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Alors, on ne peut pas me voir parce que l'animateur a coupé ma caméra.
D'accord.
Je suis navrée. Il demande de démarrer maintenant. Alors, je démarre. Voilà. Voilà. Ah, mais attendez, c'est un petit peu noir. Voilà. Oui, bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier. En tant que modérateur, je trouve que vous modérez formidablement bien. Et par rapport à l'argent, je suis un petit peu étonnée parce que dans les ashrams ou même... je me rappelle quand on a été voir le Dalai Lama qui était venu en France vers Toulouse, c'était une immense manifestation et on payait pour ça. Ça n'a jamais été gratuit, où il y avait des dons, où les gens pouvaient donner en fonction de ce qu'ils avaient, mais il y a toujours eu un... C'est pas qu'on paye la méditation, mais c'est qu'on reçoit et en contrepartie, il faut bien que le centre fonctionne. Donc j'étais un petit peu chagrinée sur cette insistance. Par rapport à l'argent.
Bon, c'est à moi que ça s'adresse. Je peux vous assurer que je n'ai jamais payé la moindre méditation de ma vie et certainement pas un enseignement de méditation. J'ai payé beaucoup d'autres choses, mais pas ça.
Donc, vous alliez dans des centres où c'était en Inde, gratuit alors ?
Oui, aussi, lorsque j'invitais un ou plusieurs maîtres en France, en aucune manière, la méditation ne pouvait être monnayée. D'autres choses, oui, des enseignements, des conférences, c'est peut-être vous qui avez...
Ah oui, les enseignements, oui, voilà. Oui.
Oui.
Mais souvent dans les enseignements, il y a des méditations.
Pour moi, ce sont deux choses différentes.
Ah, je comprends, d'accord. Parfait. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Merci.
Merci Corinne. Est-ce que quelqu'un... Anne, tu veux poser une question?
Oui, non, justement au sujet des donations... D'abord, je fais remarquer que justement, dans la session que nous avons aujourd'hui, c'est précisément ce que nous avons fait, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui estimaient ne pas devoir ou ne pas pouvoir donner d'argent, ils ne faisaient pas de donation. Par contre, il y a des gens qui ont fait des donations plus ou moins consistantes. Mais,
oui, c'est important que tu le dises parce qu'en effet, c'était pour Méditerranée, c'était la première fois qu'on procède comme ça. Et c'est important que tout le monde s'en rende compte parce que, évidemment, ça va complètement dans l'esprit de la méditation. Mais, comme disait Hervé tout à l'heure, il faut aussi que la culture collective suive et que les gens comprennent que si c'est pas tarifé, c'est pas pour autant que c'est... que ça ne doit pas être soutenu. Mais c'est, du coup, il y a une forme de souplesse. Que le système de dons permet. Et donc, on fera les comptes, mais d'après ce que j'ai cru voir, c'était pas mal. Là. Notre événement,
la prestation.
Voilà. Et que si on avait fait payer, on n'aurait pas forcément récupéré plus d'argent. Enfin, on fera les comptes, mais voilà.
Et puis, il faut voir aussi, c'est un peu de la responsabilité de chacun, mais il faut voir les choses sur le long terme. C'est-à-dire que je connais des gens qui, pendant de nombreuses années, n'avaient vraiment pas un sou et ont été à toutes sortes de formations ou d'enseignements où il y avait des donations libres et qui donnaient 3 francs 6 sous, ou 3 euros 6 sous, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, ont vu leur situation finalement s'améliorer et ont fait un don plus consistant à ce moment-là. Donc, c'est une question sur le long terme qui s'équilibre. Une fois qu'on a compris tout ce que la bénédiction, toutes les bénédictions que la méditation nous a apportées et qu'on rentre dans une période de la vie où on est un petit peu plus argenté, il est toujours temps de rattraper les choses et donner des sous à ce moment-là. Donc, c'est une vue sur le long terme qu'il faut avoir.
C'est vrai.
Voilà, et dans le prolongement de ce que tu dis, Anne, on précise toujours dans nos activités, en tout cas pour ce qui est dans le zen ou dans le bouddhisme, on précise toujours que l'aspect financier ne doit pas être un obstacle à la pratique. Donc, il est toujours possible pour les gens qui ont des revenus très faibles de venir pratiquer et de donner ce qu'ils peuvent. Par exemple, quand on va au Japon, par exemple, faire des en retraite dans les temples, c'est absolument pas tarifé. C'est-à-dire qu'en fait, le pratiquant, il donne ce qu'il peut. Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans le don. Ça, c'est vraiment un truc qui est important aussi, c'est que de plus en plus, au niveau de la pratique, on sollicite des personnes pour, on les sollicite pour qu'ils donnent un peu plus que ce qui est prévu par les tarifs pour pouvoir soutenir justement la pratique, pour pouvoir permettre à d'autres pratiquants de venir pratiquer, des pratiquants qui ont des D'accord. budgets très faibles.
Voilà, je veux juste vous dire que peut-être on s'éloigne quand même un peu du sujet principal, même si la question d'argent est une question fondamentale. Mais voilà, le sujet, c'est quand même l'aide ou l'intérêt, les limites des applications numériques. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Je vois que Marie voudrait prendre la parole. Vas-y, Marie.
Oui, tout simplement, Yann. D'abord, je voudrais vraiment te remercier pour cette table ronde. Parce que quand tu as lancé le sujet avant cet été, là, j'avais du mal un peu à comprendre. Je ne m'étais pas du tout intéressée aux applis numériques. Et le fait que tu aies posé ces problèmes, j'ai commencé à m'y intéresser. Mais surtout, j'ai pensé à interroger les jeunes autour de moi. Mmh. Et là, ça a été absolument une découverte. Des tas de personnes, j'aurais jamais imaginé que ces personnes pouvaient méditer, avaient déjà enregistré étaient connectées avec différentes applis et régulièrement méditaient. Alors c'est peut-être le début d'un chemin, voilà. Mais j'ai trouvé ça merveilleux en me disant, mais tout le monde ne peut pas peut-être franchir la porte d'un dojo, d'un temple, vouloir se mettre en position de lotus, etc. Il faut que ce soit vraiment ouvert. Mais peut-être que ces personnes, au fur et à mesure, trouveront la porte d'autre chose et franchiront d'autres pas. C'est un début.
Mmh. Voilà. C'est Gilles. Je me rappelle, alors ça je m'adresse peut-être à des plus anciens, mais que pour beaucoup au départ, moi je prends mon exemple, ce qui m'a intéressé au tout début de mon chemin, c'était les ovnis. Les ovnis et c'était la première approche. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en fous royalement des ovnis. Je m'intéresse à d'autres formes d'ovnis. Mais c'était ça en fait nos premières démarches. Alors, c'est aussi peut-être adapté à la situation, à la génération. Il y a aussi des nouvelles générations qui viennent. Donc, je me souviens aussi de ce que disait Annick de Souzel, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, et que je trouve que c'est une femme remarquable. Elle disait, il y a un moment peut-être où il y a une expérience un peu initiatrice d'un chemin spirituel. Mmh. Alors, ça peut être un rêve, ça peut être une expérience émotionnelle, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que le chemin est accompli, qu'il y a un long là, mais c'est cette expérience initiatrice qui donne envie. Je crois qu'il faut avoir l'envie. Il y a la question, à mon avis, du désir. Moi, c'est le genre de démarche, il faut que ça me donne envie. S'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de désir, ben, ça ne me branche pas. Voilà ce que je voulais juste dire. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les applis, c'est ce qui permet à certains nombres de personnes, jeunes ou moins jeunes, d'être dans ce désir.
La Gladys, elle voudrait dire quelque chose.
Tu veux prendre la parole, Gladys ? Tu veux activer ta caméra et...
Alors,
alors Gladys, tu devrais pouvoir activer ta caméra là.
C'est bon ?
Ouh, on te voit dans l'ombre.
Ouais, bah ouais.
On te voit, mais t'es bon.
Ouais.
Faut que t'allumes.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Okay, super. Ça prouve que je ne suis pas encore très virtuelle et j'en suis ravie. Je rejoins aussi Rodolphe sur ce point. Je n'ai pas du tout la même expérience. Mais je voulais vous dire que le débat est super intéressant parce que justement, vous avez des points de vue différents. Donc, ça le rend très riche. C'est chouette, merci. Et j'avais envie, ma question en fait était la suivante. Moi, c'est ma première méditation là en virtuel. Je l'ai trouvée cependant très très émouvante aussi. Mais de votre expérience à vous, quelle différence ça vous fait à vous là de pratiquer en virtuel ou en présentiel? Voilà ma question.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas non plus une grande expérience et c'était un peu ma crainte là cet après-midi. Voilà, on avait lancé ça, mais je me disais qu'est-ce qui va passer, etc. Bon, j'ai l'impression que Marie s'en est très bien sortie, une chose d'une certaine qualité au-delà donc du support numérique. Voilà, mais donc je laisse la parole aux autres parce qu'on peut avoir des points de vue différents là-dessus. Enfin, juste quand même pour dire qu'entre les deux, je préfère bien entendu méditer avec des êtres humains de chair et d'os.
Bien sûr.
Mais voilà.
Un témoignage.
En fait, dès que je me suis assis, je me suis laissé guider par la voix de Marie qui parlait, mais qui ne parlait pas trop. Je me suis senti méditer comme si j'étais tout seul, mais très bien. Je n'avais pas l'impression d'être dans une réunion collective avec beaucoup de gens qui étaient en train de faire la même chose que moi. J'étais assis sur mon tapis et puis j'étais en communication avec Marie. Voilà.
Oui, je suis d'accord avec toi, Rodolphe. Je n'ai pas non plus beaucoup senti l'effet groupe. J'ai senti l'effet relation entre Marie et moi. Je n'ai pas beaucoup senti l'effet groupe.
Ouais, c'est vrai.
Juan, tu veux dire
ouais, c'était pour dire, je rejoins aussi Rodolphe sur ce point, que effectivement, je me suis senti plus en train d'écouter une méditation seule, de méditer seule plutôt que d'être en groupe. Et comme je le dis toujours, il y a quelque chose d'un peu différent avec le groupe. Il y a quelque chose pour moi que je trouve plus agréable d'être avec cette communion en fait de gens autour de soi qui font la même chose que soi, qui se concentrent sur eux-mêmes. Je trouve ça toujours plus fort, clairement. Et donc ça reste un idéal. Ça reste un idéal de méditer en. Après, voilà, on peut aussi méditer seul, que ce soit avec un support ou sans support.
Il y a aussi une très belle méditation que j'aime bien guider de temps en temps. C'est précisément quand on est un petit groupe, faire des relations horizontales avec toute la communauté des méditants qui font exactement la même chose à la même heure dans différents autour de soi, en France, dans le monde entier. Et puis aussi avoir une méditation verticale, c'est-à-dire se relier à tous les méditants, à toutes les traditions qui nous ont transmis quelque chose de leur savoir, de leur pratique depuis des temps immémoriaux. J'aime beaucoup cette ouverture à la fois horizontale et verticale.
D'accord, mais on s'éloigne de la question de Gladys. Tu veux répondre, Hervé ?
Je rejoins votre impression sur l'impression de méditer seule. Finalement, est-ce que ce n'est pas une finalité aussi que de savoir méditer seule ? Parce qu'effectivement, le groupe est très porteur. Pour moi, débutante, c'est une expérience extraordinaire. Pour autant, j'ai quand même été très émue par la méditation qui nous a été proposée. Comme d'habitude, j'ai eu des larmes qui sont venues. Voilà, donc c'est intéressant. C'est une première pour moi. Je suis contente de l'avoir partagée avec vous, autant que celle en groupe. J'avais envie de connaître votre expérience, enfin votre point de vue via votre expérience, votre ressenti, voilà, juste un partage comme ça. Merci. D'accord. En tous les cas.
Oui. Pour répondre à la question de Gladys, pour ce qui me concerne, tout d'abord, moi je voudrais remercier Marie pour cette belle méditation guidée. Effectivement, je partage un petit peu le ressenti des autres personnes. J'ai l'impression d'être vraiment dans une forme d'intimité avec la méditation. Et pour autant, je voudrais dire quand même un mot sur, pour moi en tout cas, pour moi l'importance de méditer avec les autres, pour soi avec les autres. Parce que la méditation, ce n'est pas une posture où on va prendre, se servir pour soi, pour son propre bénéfice. Pour moi, la méditation, ça va bien au-delà. La méditation, c'est, comme disait Marie tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai été touché par ses paroles, c'est recevoir et aussi donner. C'est vraiment cette espèce de mouvement entre le donner et le recevoir. Et je pense que c'est le fait de pratiquer en groupe, je pense que ça actualise vraiment ce processus de la méditation. Il y a un autre aspect également, Maître Deshimaru, qui est vraiment notre maître à tous dans le bouddhisme Zen Soto en France, en tout cas un grand maître, disait souvent à propos de la pratique en groupe, plus il y a de bûches dans le feu, plus le feu est fort, puissant et lumineux. Et voilà, c'était vraiment une belle métaphore pour parler de la méditation en groupe. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ceci étant, je pense que je ne me convertirai pas à la pratique, enfin, à la méditation par le biais d'une application, à moins vraiment d'être en prison, d'être coupé du monde, enfin, d'être coupé, de ne pas avoir la possibilité de rejoindre un groupe. Parce que pour moi, c'est ça, vraiment la pratique fondamentale pour moi, c'est la pratique en chair et en os, comme disait Yann tout à l'heure.
Voilà. Oui, Marie, tu veux intervenir, mais je voudrais voir s'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question.
Pour compléter dans le même sens, parce que je attends, on ne voit pas, mais je suis à côté d'Hervé, là.
D'accord.
Voilà. D'accord. Donc, j'ai suivi, j'ai fait la méditation avec Marie, là, tout à l'heure, et puis je suis le débat, la table ronde, là. Et puis, en fait, je me disais, en vous écoutant, que peut-être ce qui est intéressant et ce que j'ai trouvé, moi, assez positif depuis qu'on est là, c'est la méditation, elle était très bien, parfait, mais c'est vrai qu'on l'a, moi, je l'ai ressenti aussi plus individuelle. Par contre, elle a été, à mon avis, enrichie par tous les débats qu'on vient de faire après. Donc, je me demande si dans les méditations comment parapluie, il ne faudrait pas quand même y intégrer un minimum d'échange quoi, tu vois, après la pratique. Je ne peux pas y aller,
hein. Oui, ben c'est ce que je vous ai montré, entre autres, que permet Insight Timer, puisqu'il y a une fonction réseau social. Donc, on peut dire bonjour aux gens qui ont médité avec soi, leur mettre un petit mot, etc.
Oui, mais oui, puis avoir un minimum d'échange juste après la méditation, ce qu'on a fait avec Marie, là, tu vois, en posant les questions et en approfondissant. Je trouve que c'est bien parce qu'on a une pratique commune, mais qui ne se termine pas comme ça en l'air. Il y a un minimum d'échange juste après. Voilà, c'est une proposition.
Il reste 5 minutes, donc si... Vas-y, Marie.
Juste dire quelque chose. Bon, effectivement, sur le sujet, je préfère nettement méditer en groupe. Lorsque, au mois de mars, avec le premier confinement, les autres soufis, on nous a proposé de méditer par Zoom. Et la première fois que j'ai dû guider la méditation, les premières secondes ont été très difficiles parce que je me demandais si ma parole passait, je ne voyais personne, etc. C'était vraiment très dur. Et puis peu à peu, bon, la méditation prend le dessus. Maintenant, je pense aussi qu'on peut faire passer des énergies, de très bonnes ondes positives, même à travers la vidéo. En tout cas, pour une expérience personnelle, quand j'ai écrit mon livre où j'ai interviewé près de 70 personnes, sur leur chemin, il y a certaines personnes que je n'ai pas pu rencontrer physiquement. Ça s'est passé par téléphone. Bien entendu, ces personnes je leur envoyais les questions au préalable. Malgré tout, avant chaque entretien téléphonique, personnellement, avant de composer ce numéro, je me reliais à la personne que j'allais interviewer. Je lui envoyais vraiment de l'énergie, de l'amour. Et au moment où je l'interviewais, on était avec nos voix, et pas mal de personnes m'ont dit, c'est incroyable, avec le, on est séparés par le kilomètre, et pourtant j'ai vraiment l'impression d'être cœur à cœur. Même certaines personnes m'ont dit d'âme à âme avec vous. Je leur ai pas dit que j'avais tout de même, au début, avant l'entretien, je leur avais envoyé tout de même de l'amour. Donc ça peut tout de même passer aussi.
Eh ben on va terminer là-dessus. C'est une bonne conclusion. Ça semble vouloir dire qu'on n'a pas eu complètement tort de proposer cet événement en ligne à cause des conditions sanitaires. Anne, si tu veux dire un mot pour conclure, il reste 3 minutes. On va arrêter à l'heure.
Je voulais dire deux choses, juste en synthétique. On peut dire que la méditation en ligne peut être une porte d'entrée. Une porte d'entrée qui va ensuite générer un désir d'aller plus loin. Effectivement, les gens vont ensuite creuser et aller vers l'orientation philosophique qui les intéresse et aller en présentiel et peut-être découvrir un maître. Donc, c'est une porte d'entrée. Et ce qui ressort beaucoup de toute la discussion de la fin de la séance, là, c'est que je suis frappée par le caractère sans notion péjorative du tout, le caractère horizontal de la discussion, c'est-à-dire que tout le monde s'interroge sur la relation aux autres pendant la méditation, la relation de cœur à cœur qui est extrêmement précieuse bien sûr, mais je n'ai pas perçu de référence où la méditation aurait pu amener à une relation avec plus grand que nous. Et avec un côté universel, avec l'univers, avec le cosmos, avec le Brahman. Et donc, ça, c'est un aspect plus vertical, et ça, on ne l'a pas du tout abordé.
Mais ça, on ne peut pas tout aborder.
Pas tout aborder, non.
Mais ça me semble plus difficile en ligne.
Oui.
Parce que bon nombre des sujets qu'on a abordés, ça renvoie quand même à des questions générales, des questions de fond. C'est qu'est-ce que c'est la méditation, tout simplement. Voilà, c'est
D'accord. Alors,
pour être un peu critique, la réduction de la méditation à ses effets thérapeutiques, il me semble être le danger actuel.
Voilà. Bah oui, c'est clair. Ouais.
Voilà, ben je vous propose qu'on termine là-dessus en remerciant encore une fois Antoine d'avoir bien voulu se joindre à nous, puisque voilà, on ne le connaissait pas encore. Moi, j'avais échangé un tout petit peu avec lui, mais on a vraiment apprécié de te découvrir. Enfin, moi, j'ai apprécié, je pense que les autres aussi. Et donc, on espère que lors d'un prochain événement qui ne sera pas virtuel, eh bien, tu seras des nôtres pour guider une méditation. Et voilà.
Avec grand plaisir, c'était un super moment. Et si je devais résumer, oui, je dirais qu'une appli mobile, ça peut être à la fois un point d'entrée et aussi quelque chose qui accompagne. C'est pas quelque chose d'idéal. C'est un peu comme la musique, en fait. C'est toujours mieux d'écouter un concert en live.
Ouais, c'est comme un repas.
C'est sympa aussi d'écouter la musique à la radio. Ça nous procure aussi des bonnes choses. Et je reviendrai avec plaisir pour la prochaine édition. J'étais super déçu de ne pas pouvoir venir à Rennes et de vous voir en chair et en os.
Salut Antoine, et puis bon vent et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Au revoir. Merci.
Tout le monde et merci. En fait, vous avez été très, très fidèles. Ça a duré longtemps, mais en fait, personne n'a décroché. On est toujours le même nombre de participants qu'au début, à un ou deux près. Mais enfin, en gros, voilà, il y a 33 personnes qui ont suivi cette table ronde. Il n'y avait pas de table, elle n'était pas ronde. Enfin, bon. Alors voilà, je vous dis au revoir à tous.
Au revoir.
Juste rajouter un mot.
Oui.
Tous les participants qui ont été intéressés par notre démarche et notre discussion, notre échange, notre table ronde, ils peuvent aller sur notre site meditarenne.org. Ils peuvent, s'ils sont vraiment intéressés, demander l'adhésion. Ils auront droit à un espace membre. Ils pourront consulter plus tard dans l'hiver les enregistrements des sessions précédentes et recueillir toutes les informations concernant notre prochaine session ou des sessions intermédiaires. Il faut savoir que quand les gens sont membres, il y a des petites sessions, 3-4 petites sessions dans l'année aussi qui permettent d'entretenir le relationnel, justement la sangha dont on parlait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Super. Je déconnecte. Bon, c'est moi qui ai la main pour fermer la réunion. Donc, je vais fermer pour tout le monde. Au revoir.